Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous dans cette chapelle des apparitions. Alors nous vous souhaitons une très bonne fête de Sainte Marguerite Marie. Le petit enseignement que je vais donner maintenant porte sur un événement qui s'est passé il y a exactement jour pour jour 100 ans. C'était le 16 octobre 1917. Maximilien Kolbe fondait, ou créait, on peut même dire, la milice de l'Immaculée. Et c'est à cette occasion que cette prière de consécration avait été rédigée, celle que nous dirons tous ensemble, donc à la fin de ce petit enseignement. Donc nous nous reportons 100 ans en arrière, et cet acte qui a été un acte, une étape extrêmement importante dans le cheminement et dans la mission du Père Kolbe avec ses frères franciscains. Il nous faut donc un petit peu analyser ou rappeler l'événement lui-même. Auparavant, quelques éléments biographiques indispensables pour saisir l'importance de cette étape au cours de la vie même de Maximilien Kolbe. Donc, je rappelle, Maximilien Kolbe est né en 1894 en Pologne. Ses deux parents, qui sont deux tisserands, sont tertiaires franciscains, font partie donc du tiers ordre franciscain. Sa mère lui aurait demandé un jour ce qu'il voudrait devenir plus tard. Profondément interpellé par cette question, Maximilien se serait alors adressé directement à la Vierge Marie. C'est alors la fameuse vision de la Vierge qui, en guise de réponse, lui proposa deux couronnes, une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Et elle lui demanda de choisir. Et il choisit les deux. Et il s'engagea chaque jour à devenir meilleur. Alors que étudiant, il se pose la question du sacerdoce, il voit des franciscains passer dans sa ville, il les suit, et il devient prêtre franciscain conventuel. Entré au noviciat des franciscains conventuels en 1907, il prononce ses vœux définitifs à la Toussaint 1914, donc dans la guerre première guerre mondiale. Il est alors envoyé à Rome pour son noviciat et il est ordonné prêtre le 28 avril 1918. Alors c'est en 1917 à Rome qu'il va fonder la mission de l'Immaculée. Spiritualité fondée sur le don total à l'Immaculée Conception pour devenir un instrument entre ses mains. C'est sur cet événement que je vais un petit peu m'attarder plus tard, après avoir rappelé les éléments biographiques essentiels. Donc fondation de la mission de l'Immaculée en 1917. Sur la même lancée, il crée le journal « Le Chevalier de l'Immaculée ». En 1927, il fonde la cité de l'Immaculée, Niepokalanów, près de Varsovie, où il y aura jusqu'à 800 religieux. Il met en place une maison d'édition et une station de radio, toutes deux destinées à promouvoir la vénération de la Vierge Marie, tout particulièrement dans le mystère de l'Immaculée Conception. Alors, en 1930, il va vivre le même apostolat, mais au Japon, avec quatre frères. En 1931, il fonde une autre cité de Marie, de l'Immaculée, près de Nagasaki. Le couvent construit sur une colline, le dos tourné à la ville. À l'étonnement de tous, ce couvent sera le seul bâtiment resté debout lors de l'explosion de la bombe atomique en 1945, qui avait dévasté Hiroshima et Nagasaki, 1945. Un écrit témoignage sur le Père Kolb nous dit que le Père Kolb priait souvent devant le Saint-Sacrement pour confier les intentions des lecteurs et donateurs de la Cité de l'Immaculée et de l'édition. L'intensité de son recueillement nous impressionnait, dit le témoin. Homme parmi les hommes, il était gai, aimait raconter des blagues, faire rire les malades à l'infirmerie pour les détendre. En 1939, il est arrêté une première fois et battu avant d'être libéré. 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, qui a d'ailleurs commencé justement avec l'occupation de la Pologne en septembre 1939. Le 17 février 1941, il est arrêté par la Gestapo, violemment battu car il refuse de renier Jésus-Christ. Puis il est transféré en mai 1941 vers le camp d'Auschwitz. En juillet 1941, un homme disparaît, s'évade du bloc 14 où se trouve le père Kolb. En représailles, les nazis sélectionnent 10 hommes de la même baraque qui, enfermés, sont condamnés à mourir de faim. Maximilien Kolb se porte volontaire pour remplacer l'un des 10 prisonniers, Franciszek Gajowniczek, père de famille. Il prend sa place. Il veut prendre sa place pour que la famille de ce prisonnier puisse retrouver le père, l'époux et le père. Les nazis consentent à la substitution. Les 10 prisonniers sont enfermés dans un bunker souterrain du camp, à peine éclairé par des ouvertures étroites. Bien que la faim et la soif poussent les condamnés à la folie, jusqu'à s'entretuer après quelques jours seulement, le prêtre Maximilien, lui, réussit à faire régner le calme et la piété entre ses compagnons de cette tragédie au moyen de prières et d'oraisons. Après 2 semaines sans nourriture, seul le père Kolb, qui a soutenu et vu mourir tous ses compagnons, est encore en vie. La place venant à manquer dans le bunker, il est exécuté le 14 août au soir d'une injection de phénol dans le bras. Son corps est brûlé dans un four crématoire le 15 août. Il va être béatifié par le pape Paul VI en 1975 et canonisé en 1982, au titre de martyr, donc martyr de la charité, par Jean-Paul II, dans un contexte très tendu, étant donné que c'était quelques mois après l'état de siège en Pologne. Et donc Jean-Paul II, qui était un petit peu, lui-même avait été victime de l'attentat en 81, et en 82, donc, il a canonisé, dans une grande solennité, avec une foule considérable et immensément de la présence immense de en nombre de Polonais. Et donc il a canonisé son illustre compatriote au titre de martyr. Et on peut toujours vénérer le lieu du sacrifice de Saint Maximilien Kolb dans le fameux bunker, dans la cellule donc qu'on peut visiter à Auschwitz, et on peut prier. Venons-en maintenant aux événements du 16 octobre d'il y a 100 ans, 1917. Frère Maximilien avait toutes les raisons de vénérer, de penser à la médaille de la rue du Bac comme signe distinctif de la milice de l'Immaculée qu'il voulait fonder. Il distribuait très souvent cette médaille, justement, jusque dans le camp de concentration d'Auschwitz. Aux gardiens. Le 16 octobre 1917, au soir, il réunit 6 compagnons qui devinrent les premiers chevaliers de l'Immaculée. La date n'avait pas été choisie au hasard. La liturgie célébrait ce soir-là les vêpres de la fête de Sainte Marguerite Marie, une Française qui avait bénéficié en son temps d'apparition du Sacré-Cœur de Jésus. « Selon un père italien, la sainte visitandine était particulièrement en faveur au collège des franciscains, qu'on appelle le collège séraphique, au point que dans la chapelle dédiée au Sacré-Cœur, une peinture représentait la sainte de part et monial lors d'une apparition du Christ. D'ailleurs, je rappelle le lien qu'il y a entre Marguerite Marie et Saint François d'Assise, c'est que Marguerite Marie a vu Saint François, comme nous le voyons sur la fresque ici, sur la peinture murale, elle l'a vu en vision, un jour de sa fête, un 4 octobre. Et le Seigneur lui a donné Saint François comme protecteur. Donc déjà, il y avait quelque chose qui prédisposait à cette ferveur particulière pour le Sacré-Cœur et pour Marguerite Marie, chez Maximilien Kolb et chez ses frères de cette nouvelle milice de l'Immaculée qui était en train d'être fondée. Donc, en ce 16 octobre au soir, dans cette chapelle, les sept religieux s'agenouillèrent devant l'autel de l'Immaculée pour se consacrer entièrement à la Vierge Marie selon le programme de la milice de l'Immaculée qu'ils s'étaient eux-mêmes tracé. À ce moment-là, parmi eux, un seul était prêtre. En effet, Maximilien Kolb n'était pas encore prêtre. Il s'agissait du père Joseph-Pierre Pal, un Roumain, ami et confident du frère Maximilien Marie. C'est lui qui bénit les médailles miraculeuses, c'est lui qui les imposa à ses compagnons. Il est décédé du typhus en juin 1947. Le père Pal a eu le temps de verser son témoignage à l'enquête en vue de la béatification de son ancien compagnon. D'après lui, l'atmosphère de cette fondation fut très particulière, étonnante même, au regard du but poursuivi. Il dit « Tout s'est fait en cachette. Seul le savait le père recteur, mais il ne fut pas présent. » De fait, le frère Maximilien n'aurait jamais lancé une telle association sans l'autorisation de son supérieur. L'obéissance constitua une marque importante, primordiale même, non seulement de sa vie religieuse, mais également de sa spiritualité. Avant de descendre à la chapelle, les sept hommes s'étaient réunis dans la chambre du frère Antoine Mansi. Là, le frère Maximilien Marie leur lut le programme de la milice de l'Immaculée. Écrit à la main sur un simple morceau de papier par le fondateur, ce texte comprenait trois aspects distincts. Il définissait d'abord la finalité de ce nouveau groupement, puis il indiquait les conditions spirituelles pour être un bon chevalier de l'Immaculée. Enfin, il indiquait à ses compagnons les moyens à prendre pour atteindre le but proposé par la milice de l'Immaculée. Le but peut se résumer en ceci. Il s'agissait donc d'obtenir la conversion au Christ des pécheurs, des hérétiques, des schismatiques et particulièrement des francs-maçons. La franc-maçonnerie était particulièrement virulente à cette époque-là contre l'Église. Dans cette perspective, les membres de la milice de l'Immaculée devaient eux-mêmes se consacrer à l'Immaculée Conception pour en devenir de simples instruments. En signe de cette offrande totale, ils s'engageaient à porter sur eux la médaille miraculeuse. Tous les moyens conformes à la morale chrétienne et aux lois civiles pouvaient être utilisés en vue d'atteindre cette conversion des non-chrétiens. Une prière quotidienne était recommandée, qui s'inspirait grandement de celle de la rue du Bac, mais qui a été un petit peu développée. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui nous réfugions auprès de vous et pour tous ceux qui ne se tournent pas vers vous, et surtout pour les francs-maçons. » Alors, dans le contexte de l'époque, aux yeux de l'Église catholique, la franc-maçonnerie apparaissait comme une force adverse de tendance gnostique, occultiste, à l'origine de certains idéaux modernes profondément anticléricaux et anticatholiques. Ces rites initiatiques, ces réseaux d'appartenance, son goût du secret faisaient peser sur elle, sur la franc-maçonnerie, une véritable suspicion. Plusieurs papes étaient intervenus avec véhémence, comme le pape Léon XIII, et plus tard aussi Benoît XV. Donc, voilà un peu le déroulement de ce combat qui avait été justement aussi recommandé par Léon XIII. Léon XIII voyait la franc-maçonnerie comme le point central d'où procèdent et aboutissent les ennemis de l'Église. S'il condamnait la loi du secret, le pape mettait aussi également en cause le rationalisme, l'indifférentisme religieux et le libéralisme moral et politique, l'antichristianisme et le relativisme de la maçonnerie. Face à ce qu'il considérait comme un véritable danger pour le catholicisme, il exhortait donc les évêques à lutter fermement contre la maçonnerie, soulignant en particulier qu'aucun catholique ne pouvait en être membre. Alors, dans l'arsenal des moyens mis en œuvre pour lutter contre cet adversaire, Léon XIII exaltait particulièrement le tiers ordre franciscain. Nous profitons, dit-il, à dessein de la nouvelle occasion qui nous est offerte d'insister sur la recommandation déjà faite par nous en faveur du tiers ordre de Saint François. Il faut mettre un grand zèle à le propager et à l'affermir. Tel en effet qu'il a été établi par son auteur, il consiste tout entier en ceci: attirer les hommes à l'amour de Jésus-Christ, à la pratique des vertus chrétiennes. Il peut donc rendre de grands services pour aider à vaincre la contagion de ces sectes détestables que cette association, donc, des franciscains, fasse donc tous les jours de nouveaux progrès. Voilà donc cet événement qui a trouvé son fondement en ce 16 octobre 1917. Et qui a été, comme je le rappelle donc, la date avait été explicitement choisie à cause de la mémoire de Sainte Marguerite Marie et de la dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Je propose maintenant que nous lisions l'acte de consécration rédigé par Saint Maximilien Kolbe, qui vous a été distribué. Alors vous verrez qu'il y a un moment donné, il y a une lettre en majuscule avec des points de suspension, c'est-à-dire donc chacun dira son prénom, et puis on peut tous dire cette prière qui, naturellement, plus que jamais, a gardé toute son actualité. Je vous invite à vous lever. Daignez recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier l'ordre de la miséricorde, je me prosterne devant vous, moi, Jean-Rodolphe, pauvre pécheur que je suis. Je vous supplie humblement d'accepter mon être tout entier comme votre bien et votre propriété et d'agir en moi en toutes les facultés de mon âme et de mon corps, en toute ma vie, ma mort et mon éternité, comme il vous plaira. Disposez de moi comme vous le désirez pour réaliser ce qui est écrit de vous. Elle écrasera la tête du serpent, et encore, vous seul vaincrez les hérésies dans le monde entier. Quand vos mains toutes pures et si riches de miséricorde, je sois un instrument docile pour vous faire connaître et aimer de tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra le règne du divin cœur de Jésus, en vérité, là seulement où vous venez, s'obtient la grâce de la conversion et de la sanctification des âmes, parce que toutes les grâces jaillissent du divin cœur de Jésus et s'écoulent sur nous en passant par vos mains maternelles. Ô Marie conçue sans péché, Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Paul II, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière, Sainte Faustine. Donc nous vous proposons maintenant de dire le chapelet qui va être animé par les sœurs avec quelques des petites citations de Sainte Marguerite Marie. Nous avons pensé que vu le contexte, d'abord le Sacré-Cœur, le cœur transpercé, puis le contexte dans lequel cette milice de l'Immaculée de Maximilien Kolbe est née, que nous pourrions prendre aujourd'hui les mystères douloureux. D'autant plus que dans les mystères douloureux, il est question de l'heure sainte, recommandée par Jésus à Marguerite Marie, et puis aussi la mort de Jésus en croix, le cœur transpercé. Et donc, nous allons commencer comme un chapelet classique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était. Donc, ce que nous allons procéder ainsi. Je vais annoncer le mystère et faire une très courte citation scripturaire, et ensuite je laisse les sœurs commenter avec Marguerite Marie et conduire la dizaine. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Sa prière devint plus intense. Des grosses gouttes de sang tombaient à terre. Sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Prenez pour aspiration ces paroles de